Chapitre 9. Lucius Sergius Catilina appartenait à la plus vieille noblesse de Rome. Il prétendait sur ce point ne le céder à personne, pas même à César, et il avait droit à cette prétention si, comme il le disait, il descendait de Sergestus, compagnon d'aîné. Ce qu'il y avait de certain, c'est qu'il comptait parmi ses aïeux un Sergius Silus qui, blessé 23 fois dans les guerres puniques, avait fini par faire adapter à son bras mutilé une main de fer avec laquelle il continuait de combattre. Cela rappelle Gut de Berlichingen, cet autre seigneur qui, pareil à Catilina, se mit à la tête d'une révolte de gueux. C'était, quant à lui, Catilina, dit Salluste, l'avocat démocrate qui a laissé de si beaux jardins qu'aujourd'hui même il porte encore son nom. C'était, quant à lui, un homme doué d'une de ces rares constitutions qui peuvent supporter la faim, la soif, le froid, l'éveil, d'un esprit audacieux, rusé, fécond en ressources, capable de tout feindre, de tout dissimuler, convoiteur du bien d'autrui, prodigue du sien, ayant beaucoup d'éloquence, peu de jugement, et méditant sans cesse des projets, des mesures chimériques, impossibles. Voilà pour le moral. Comme on le voit, Salus ne gâte pas son homme. Au physique, il avait le visage pâle et inquiet, les yeux injectés de sang, la démarche tantôt lente, tantôt précipitée. Sur le front, enfin, quelque chose de cette fatalité que, dans l'Antiquité, Eschyle imprime à son Oreste, et chez les modernes, Byron à son Manfred. On ne savait pas au juste la date de sa naissance, mais il devait avoir 5 ou 6 ans de plus que César. Sous cela, il s'était baigné dans le sang. On racontait de lui des choses inouïes que l'appréciation moderne ne nous permet de croire qu'avec réserve. On l'accusait d'avoir été l'amant de sa fille et le meurtrier de son frère. On assurait que, pour être déchargé de ce dernier meurtre, il avait fait, comme si son frère eût été vivant encore, mettre le mort sur la liste des proscrits. Il avait des motifs de haine contre Marcus Gratidianus. Il le traîna, c'est toujours la tradition qui parle et non pas nous, il le traîna vers le tombeau de Lutatius, lui creva les yeux d'abord, puis lui coupa la langue, les mains et les pieds, puis enfin lui trancha la tête, et ensuite, les bras tout sanglants, porta aux yeux du peuple cette tête depuis le mont Janicule jusqu'à la porte Carmentale où était Sylla. Puis, comme si toutes les accusations dussent s'accumuler sur lui, on disait encore qu'il avait tué son fils pour que rien ne fît obstacle à son mariage avec une courtisane qui ne voulait pas de beau-fils, qu'il avait retrouvé l'aigle d'argent de Marius et lui faisait des sacrifices humains, que, comme le chef de cette société de sang découverte il y a 15 années à Livourne, il ordonnait des assassinats inutiles pour ne point perdre l'habitude du meurtre, que les conjurés avaient bu à la ronde le sang d'un homme égorgé, qu'il voulait massacrer les sénateurs, enfin, ce qui touchait bien autrement le petit peuple, que son intention était de mettre le feu aux 4 coins de la ville. Tout cela est bien invraisemblable. Le pauvre Catilina m'a tout à fait l'air d'avoir été choisi pour être le bouc émissaire de son époque. C'est au reste la vie de Napoléon. Ouvrons le mémorial de Sainte-Hélène au 22 mars 1816. Aujourd'hui, l'empereur lisait, dans l'histoire romaine, la conjuration de Catilina. Il ne pouvait la comprendre telle qu'elle est tracée. Quelque scélérat que fût Catilina, disait-il, il devait avoir un but. Ce ne pouvait être celui de régner sur Rome, puisqu'on lui reprochait d'y vouloir mettre le feu aux 4 coins. L'empereur pensait que c'était plutôt quelque nouvelle faction, à la façon de Marius ou de Sylla, qui, ayant échoué, avait accumulé sur son chef toutes les accusations banales dont on les accable en pareil cas. Et avec son œil d'aigle, l'empereur pouvait bien avoir vu clair dans la nuit des temps, comme il voyait à travers la fumée des champs de bataille. Au reste, le moment était propice à une révolution. Rome se divisait en riches et en pauvres, en millionnaires et en endettés, en créanciers et en débiteurs. L'usure était à l'ordre du jour, le taux légal était de 4% par mois. Tout s'achetait, depuis le vote de Curion jusqu'à l'amour de Servilie. La vieille plèbe romaine, la race des soldats et des laboureurs, la moelle de Rome, est détruite. Dans la ville, 3 ou 4 000 sénateurs, chevaliers, usuriers, agioteurs, meneurs d'émeutes, des affranchis à chaque pas. Hors de Rome, plus de cultivateurs, des esclaves. Plus de champs ensemencés, des pacages. On s'était aperçu que l'on gagnait plus à nourrir les pourceaux que les hommes. Porcius Caton avait fait une fortune énorme à ce métier-là. Partout des traces, des Africains, des Espagnols, les fers aux pieds, marqués du fouet sur le dos, du signe de la servitude au front. Rome a usé sa population à prendre le monde, elle a troqué l'or de la nationalité contre la monnaie de cuivre de l'esclavage. On a des villas à Naples pour les brises de la mer, à Tivoli pour la poussière des cascatelles, à Albano pour l'ombrage des arbres. Les fermes, ou plutôt la ferme générale, est en Sicile. Caton a 3 000 esclaves. Jugez des autres. Les fortunes sont absurdes à force d'être gigantesques. Crassus possède, rien qu'en terre, 200 millions de sesterces, plus de 40 millions de francs. Verrès, en 3 ans de préture, a raflé 12 millions à la Sicile. Cecilius Isidorus s'est ruiné dans les guerres civiles. Il n'a plus que quelques pauvres millions qui courent les uns après les autres, et cependant, en mourant, il lègue encore à ses héritiers 4 116 esclaves, 3 600 paires de bœufs, 27 500 têtes de bétail et 60 millions de sesterces en argent, près de 15 millions de francs. Un centurion possède 10 millions de sesterces. Pompée se fait payer, par le seul Ariobarzane, 33 talents par mois, quelque chose comme 180 000 francs. Les rois sont ruinés au profit des généraux, des lieutenants et des proconsuls de la République. Déjotarus est réduite à la mendicité. Salamine ne peut payer Brutus, son créancier, Brutus enferme le Sénat et l'assiège. 5 sénateurs meurent de faim, les autres paient. Les dettes égalent les fortunes. C'est tout simple, il faut qu'il y ait balance. César, partant comme prêteur pour l'Espagne, emprunte 5 millions à Crassus et en doit encore 50. Milon, lors de sa condamnation, devait 14 millions. Curion, se vendant à César, devait 12 millions. Antoine, 8 millions. La conspiration de Catilina est donc à tort, selon nous, nommée une conspiration. Ce n'est pas un complot, c'est un fait. C'est la grande et éternelle guerre du riche contre le pauvre, la lutte de celui qui n'a rien contre celui qui a tout. C'est la question qui est au fond de toutes les questions politiques que nous avons heurtées en 1792 et en 1848. Babeuf et Proudhon sont des Catilinas en théorie. Aussi, voyez qui est pour Catilina, voyez qui forme son cortège, voyez quels gens lui servent de garde. Tous les élégants, tous les débauchés, tous les nobles ruinés, tous les beaux à tunique de pourpre, tous les gens qui jouent, qui s'enivrent, qui dansent, qui entretiennent des femmes. Nous avons dit que César en était. Et puis, à côté de cela, des braves, des gladiateurs, des anciens septembriseurs de Sylla ou de Marius, et, qui sait, peut-être le peuple. Les chevaliers, les usuriers, les agioteurs, les banquiers sentent si bien cela qu'ils portent au consulat Cicéron un homme nouveau. Cicéron a pris des engagements. Il écrasera Catilina, car pour que tout ce qui possède des villas, des palais, des troupeaux, des pâturages, une caisse, dorme tranquille, il faut que Catilina soit écrasée. Il commence l'attaque en présentant au Sénat, Catilina est sénateur, retenez bien cela, en présentant au Sénat une loi qui ajoute un exil de 10 ans aux peines portées contre la brigue. Catilina sent venir le coup. Il veut discuter la loi, il glisse un mot en faveur des débiteurs. C'est là que Cicéron l'attendait. « Qu'espères-tu, lui dit-il, de nouvelles tables, l'abolition des dettes ? J'en afficherai des tables, moi, mais des tables de vente. » Catilina s'emporte. « Qui es-tu donc, dit-il, pour parler ainsi, mauvais bourgeois d'Arpinum, qui a pris Rome pour ton hôtellerie ?» Alors le Sénat tout entier murmure et prend parti pour Cicéron. « Ah ! S'écrie Catilina, vous allumez un incendie contre moi ? Soit, je l'étoufferai sous des ruines. » Ce mot perd Catilina. Cicéron en appelle au boutiquier. Les députés des Allobroges, que Catilina a pris pour confident, ont remis à l'avocat de l'aristocratie le plan de la conjuration. Cassius doit incendier Rome. Cethégus égorger le Sénat. Catilina et ses lieutenants se tiendront aux portes et tueront tout ce qui tentera de s'enfuir. Les bûchers se préparent. Demain, peut-être, les aqueducs vont être bouchés. Tout cela ne détermine pas le peuple à prendre parti pour le Sénat. Caton fait un long discours. Il comprend que le temps est passé d'invoquer le patriotisme. Bon, le patriotisme, on rirait au nez de Caton, on l'appellerait du nom antique qui correspond à notre nom moderne, Chauvin. Non, Caton est de son époque. Au nom des dieux immortels, dit-il, je vous adjure, vous pour qui vos maisons, vos statues, vos terres, vos tableaux ont toujours été d'un plus grand prix que la République, ces biens, de quelque nature qu'ils soient, objets de vos tendres attachements, si vous voulez les conserver, si, à vos jouissances, vous voulez ménager un loisir nécessaire, sortez de votre engourdissement et prenez en main la chose publique. Le discours de Caton touche les riches. Mais ce n'est point assez. Les riches, on sait bien qu'ils seront du parti des riches. Ce sont les pauvres, ce sont les prolétaires, c'est le peuple qu'il faut entraîner. Caton fait distribuer par le Sénat pour 7 millions de blé au peuple, et le peuple est pour le Sénat. Et cependant, si Catilina fut restée à Rome, peut-être sa présence eût-elle balancé cette splendide distribution. Mais il est rare que le peuple donne raison à celui qui quitte la partie. Il y a un proverbe là-dessus. Catilina quitta Rome. Le peuple donna tort à Catilina.